Frères et sœurs, la grâce, la paix sont avec nous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, celui que nous reconnaissons comme Seigneur sur notre existence. Pour nous placer résolument devant Dieu, je vous invite à vous lever et à chanter le premier répond indiqué dans le livret liturgique figurant au début du psautier français « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Le monde, notre monde, est troublé, si souvent chaotique, sombre, désagréable, horrifiant. Néanmoins, nous voulons rendre grâce, être reconnaissants pour ce qui est beau, pour ce qui est juste, pour ce qui élève notre vie et la rend plus joyeuse. Les frères et les sœurs en humanité, les communions inattendues, le sourire d'un inconnu, la chaleur d'un ami, la tendresse d'un compagnon et les paroles de vie. Toutes ces paroles qui nous réveillent, ces paroles qui nous redressent, toutes ces paroles qui nous font à nouveau aimer la vie. Oui, nous rendons grâce pour tout ce qui nous fait venir inlassablement au monde. Amen. Notre reconnaissance, bien sûr, s'adresse à Dieu, c'est lui que nous chantons au psaume 25, les strophes 1, 3 et 4. Prenons place. Nous sommes heureux d'accueillir notamment la famille Perroche. Pascal et Caroline ont demandé le baptême pour leur enfant, Nicolas. Nicolas qui est en âge d'entendre, de comprendre et de saisir ces paroles du Deutéronome qui nous tiendront lieu d'expression de la volonté de Dieu pour ce matin. Écoute bien, Nicolas. Regarde, dit l'Éternel à Moïse, j'ai placé aujourd'hui devant toi le bonheur et la vie, le malheur et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. Aide-nous, ô Éternel, à comprendre les vérités qui sont les tiennes, à chercher comment tes pensées peuvent s'inscrire dans notre cœur. Aide-nous, ô Éternel, à vivre les idées que tu mets en nous. Oui, que nos paroles, que nos actes reflètent ta présence et la beauté du monde qui est le tien. Amen. Et c'est dans le livre du prophète Ésaïe que nous entendons ces paroles de grâce. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, dit l'Éternel, ma bonté pour toi ne faiblira point. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Oui, je te garde ma fidélité. Frères et sœurs, chantons notre reconnaissance. Je vais inviter la famille de Nicolas à me rejoindre, parents, parrains, marraines, et je vous invite à prendre place. Nicolas, je vais te demander d'approcher tout spécialement et de te faire entourer par les tiens. Voilà, nous avons l'occasion de voir cette bonne frimousse régulièrement, notamment lors des dimanches catéchétiques. Avance-toi un peu parce que nous te faisons de l'ombre. Et cette bonne frimousse fait partie de cette fratrie, de cette tribu que nous avons plaisir à compter parmi nous. Tu es donc l'un de ces catéchumènes qui fréquentent l'école biblique, qui t'approprie cette tradition chrétienne. Et tes parents, en demandant ton baptême, souhaitent te dire à quel point ta place est bien ici. et à quel point tu es en mesure de pouvoir t'épanouir et devenir un acteur de cette communauté. Pour être acteur, il s'agit d'abord de passer par un apprentissage, apprendre les mots qui nous viennent de loin ou de moins loin. Et précisément, Nicolas a choisi les mots de Pierre Fatt, l'un de nos anciens pasteurs, pour nous tenir lieu de confession de foi ce matin. C'est un choix qui s'accorde au désir des parents, d'ailleurs. Et donc, nous allons pouvoir nous associer à cette confession de foi de ce pasteur de l'oratoire qui t'inscrit dans une tradition que tu vas pouvoir t'approprier. Et je vais vous proposer, frères et sœurs, de vous lever pour que nous nous associons pleinement à cette confession de foi.
Dieu, je le cherche sans jamais le trouver. Quand je m'adresse à lui, j'espère qu'il m'entend. Mais je n'en sais rien. On m'a dit qu'il est lumière, nourriture et vie, amour, justice et paix. Je voudrais le croire, mais ce sont des hommes qui m'ont dit tout cela. Comment une parole d'homme peut-elle devenir parole de Dieu? Pourtant, je crois que les hommes de la Bible, Moïse et les prophètes, n'auraient jamais parlé comme ils l'ont fait s'ils n'avaient pas été inspirés par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit qui anima Jésus de Nazareth et lui fit prendre conscience, dès son enfance, que Dieu était son Père. Jamais ses actes n'ont contredit ses paroles. Il est mort pour ne pas se renier. Je crois que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Il est pour moi le chemin qui conduit à Dieu. C'est encore l'esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je crois l'amour plus fort que la mort. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place. Baptiser, c'est répondre à cet appel qui a été adressé aux disciples sous cette exhortation que l'on trouve à la fin de l'Évangile selon Matthieu. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit Jésus à ses disciples. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur, regardez tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, nous entendons que le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Cela, dès les origines, nous en parlions encore tout à l'heure, une sorte de pardon originel qui nous porte sur les fonts baptismaux et qui nous portent dans la vie. C'est une alliance qu'il renouvelle de génération en génération, c'est donc une alliance qui est bonne pour toi aussi, Nicolas. Par le baptême, Dieu nous manifeste le salut en Jésus-Christ. Ce baptême signifie que Dieu t'a aimé en premier et que tu es appelé librement à pouvoir lui répondre par ton adhésion, par ton amour. Ce nom est donné gratuitement, ce nom de Nicolas. C'est le nom par lequel nous aurons plaisir à t'appeler encore et encore. Et c'est une façon de dire que nous te reconnaissons une identité singulière. Tu es un être singulier, semblable à nul autre pareil. Avec toi, nous apprendrons à faire jaillir, grâce à Dieu, une vie nouvelle de foi, de chaleur, de tendresse. cela dans la perspective de bâtir un monde plus juste, plus vivable. Et nous avons déjà pressenti à quel point cela est tout à fait faisable avec toi. Ses parents me disaient à quel point ils étaient déjà intéressés par les questions métaphysiques. Cela a déjà largement transpiré, nous sommes heureux de cela. Je vais t'inviter à t'approcher de ce baptistère et pour que tu puisses exprimer ta pleine liberté, je te pose quand même cette question. Que demandes-tu, Nicolas ?
D'être baptisé.
Nicolas, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nicolas, Dieu te bénit et te garde, jour après jour, sur la route qui sera la tienne. Il t'éclaire de sa lumière et de son amour. Ne crains pas, dit le Seigneur, car je t'ai racheté. Tu es à moi. Tu fais partie de ma famille. Amen. Oh, chers frères et sœurs, voici Nicolas. Voilà la belle pousse. Nicolas, tu auras donc compris que tu es ici, chez toi, tu es vraiment le bienvenu. C'est ta famille spirituelle. Cela signifie que tu peux compter sur ces personnes en toutes circonstances. Quant à vous, frères et sœurs, vous avez bien sûr une responsabilité à son égard en tant que famille spirituelle. Car en ayant toute liberté d'occuper cette place qui lui est offerte ou non, vous serez témoin de la fidélité de Dieu en lui disant que sa place est à jamais marquée. Pour te dire également à quel point ta vie s'ouvre sur un avenir heureux, je vais maintenant laisser la parole à ton parrain dans un premier temps, puis à tes parents pour te dire ce qu'ils désirent à ton endroit.
Merci. Mon filleul, nous tenons avec ta marraine, Armel, à partager un texte de la Bible qui nous tient à cœur. Avant toute chose, sache que nous sommes fiers de toi pour ton engagement dans notre Église par ton baptême ce jour. Nous serons là avec notre Seigneur tous les jours pour t'écouter, te soutenir jour après jour. On va te lire un texte, c'est un texte de Matthieu, les versets 24 à 27. Je pense que peut-être que tu le connais. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les dit, je les dis, et les mets en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elles se sont jetées sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles, je les dis, je ne les mets pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. N'aie crainte, Nicolas, nous t'aiderons avec la force de notre Seigneur à bâtir ta vie sur ce roc. Amen.
Nous désirons que notre enfant trouve un sens à sa vie et qu'il se sache aimé de Dieu. C'est pourquoi nous avons voulu que tu sois baptisé en espérant que nous serons te guider tout au long de ton chemin de vie, selon l'exemple que Jésus a montré, dans le don de soi, le respect de toute vie, le pardon et la générosité. Sache garder ton libre arbitre en toutes circonstances et que grâce à ta clairvoyance, tu discernes ce qui est bon pour toi et pour les autres. Nicolas, tu peux compter sur ton papa et ta maman pour t'accompagner, t'aider, t'écouter, même si tu penses que nous ne le faisons pas assez encore aujourd'hui. Ta famille sera là pour toujours et à tes côtés. Nous ferons de notre mieux pour te permettre d'avoir une vie aussi heureuse que possible, mais nous savons que nous ne pourrons pas t'épargner des heures parfois sombres. En demandant le baptême pour toi, Nicolas, nous avons souhaité également te donner la force nécessaire pour traverser les moments difficiles de la vie. C'est ainsi que, conscients de nos limites, nous nous tournons vers Dieu, notre lumière, pour que jamais tu ne demeures dans la nuit et que renaisse toujours en toi l'espérance. Amen.
Frères et sœurs, nous allons nous recueillir dans la prière et c'est Armelle, la marraine, qui nous conduit dans cette prière d'action de grâce.
Je te prie, Seigneur, pour Nicolas que tu as adopté comme ton enfant. Aide-le à grandir dans la foi, donne-lui un cœur humble et ouvert aux autres. Éclaire-le dans les difficultés, protège-le contre les influences mauvaises et guide-le dans la vie, dans ses choix. Je te remercie d'être la chance que j'ai d'être sa marraine, de pouvoir m'occuper de lui. Je voudrais créer des liens avec Nicolas afin qu'il puisse compter sur moi et me faire confiance. Avec son parrain, nous te demandons de nous aider à bien remplir notre rôle et à établir avec lui un lien de confiance et d'affection. Aide-nous à veiller sur lui. Amen.
Nous allons maintenant ouvrir la Bible au livre de l'Exode. Au chapitre 17 du livre de l'Exode, j'ai retenu un passage qui fait suite à cet épisode de la manne que nous avions lu au mois d'avril. Après s'être plaint de ne pas avoir à manger, le peuple va se plaindre d'avoir soif. Voici ce que nous lisons au chapitre 17 du livre de l'Exode. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin, selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Rephidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, assoiffé, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif ? « Moi, mes fils et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je pour ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu avanceras. » Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Je vous propose de prendre votre recueil de chants, louanges et prières. Au cantique 403, nous aurons les mots et la mélodie pour faire le lien entre ce passage et ce baptême qui vient d'être célébré. Cantique 403, strophe 1, 2, 3.
Thank you.
Éternel, que ta parole parle à notre cœur et nous dise ta tendresse et ta joie pour nous comme pour ce monde. Chers frères et sœurs, j'ai choisi ce texte biblique en pensant aux parents de Nicolas et à vrai dire à nous tous, car pour ma part, il me semble que ce récit biblique parle d'une chose aussi décisive qu'universelle, du moins dans notre société, la crise d'adolescence. Oui, il me semble que le peuple hébreu manifeste ici une forme de crise d'adolescence. Et c'est ce à quoi le texte biblique veut réagir. À quoi reconnaît-on qu'il s'agit d'une crise d'adolescence ? Eh bien, à la réaction de ce qui tient lieu de parents, Moïse. Moïse qui se tourne vers Dieu à la manière des parents d'adolescents, qui lève les yeux au ciel en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire de lui ?» Vous voyez à quel point cela nous concerne tous. Si Moïse est hors de lui, s'il n'en peut plus de ce peuple qu'il a libéré de l'esclavage, c'est parce que les Hébreux n'en finissent pas de se lamenter tout en ne faisant strictement rien pour arranger la situation. Ici, ils ont soif, mais ils ne vont rien faire pour trouver de l'eau. Quelques siècles plus tard, Moïse aurait très bien pu leur dire « Eh bien, tu vas dans la cuisine et tu ouvres le robinet. » De même qu'au chapitre précédent, lorsqu'il est question de la manne et que les Hébreux se plaignent de ne pas avoir à manger, Moïse aurait pu leur répondre quelques siècles plus tard de se lever et d'aller ouvrir le frigo, voir s'il était encore plus excédé, « Eh bien, tu n'as qu'à aller faire les courses. » Le peuple hébreu est à ce moment de sa construction personnelle qui va le faire passer de sa condition d'enfant qui reçoit tout de ses parents, des personnes qui l'entourent, à la condition d'adulte qui se prend en charge, qui agit sur le cours des événements pour obtenir ce dont il a besoin. Le peuple hébreu est à ce moment de sa vie que nous appelons l'adolescence, et qui consiste notamment en une prise de conscience de besoins vitaux auxquels il faut satisfaire, et qui ne sont pas simplement manger et boire, s'habiller, avoir un toit. Il découvre la nécessité de s'organiser, de se prendre en charge et de faire face à des problèmes qui jusque-là étaient le domaine réservé des parents. Le peuple hébreu a soif, nous dit le texte. Mais cette soif n'est pas simplement une question physiologique. Il n'est qu'à aller à l'autre bout du texte biblique, lorsque Moïse frappe sur le rocher pour en faire sortir de l'eau, pour bien comprendre que l'eau n'est pas de l'eau, du moins pas au sens de H3O plus OH-. De même, la soif du peuple hébreu ne se limite pas à la soif d'une boisson fraîche. Bien d'autres choses se jouent en eux, dont la soif est l'expression possible. Le peuple a soif de ce qui fait la vie dans son aspect le plus intime. Le peuple hébreu a soif comme les adolescents ont soif de vivre, ce qui s'exprime d'abord par un grand manque. L'adolescent manque de tout, ou plus exactement, il ne sait pas où trouver ce dont il a profondément besoin. Alors que l'eau est là, à proximité, nous dit le texte. Il n'y a qu'à faire quelques pas et agir. Cela signifie que les adolescents ont besoin d'être rassurés sur l'avenir, sur leur avenir. Car ils ont bien conscience que c'est leur vie qui est en jeu ici. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte ? Pour nous faire mourir ? C'est bien la question de la vie qui est en jeu, et pas simplement d'une contingence passagère, la soif. Les adolescents se sentent menacés, même s'ils essaient de manifester une grande assurance, une sorte de superbe face à leurs parents. Car rien ne va de soi. L'avenir n'a rien d'assuré pour eux, bien au contraire. Tout est menace, rien ne va comme ils voudraient. Même leur corps ne répond pas à ce qu'ils espèrent. Tant de choses leur résistent. À commencer par les résultats scolaires, parfois, qui ne peuvent être bons qu'à la condition qu'on donne un petit peu de sa personne. Je referme aussitôt la parenthèse, c'est le temps des vacances, profitons-en. L'adolescent est évidemment bouleversé comme l'est le peuple hébreu, parce que l'adolescent est sur le point de sortir de la pensée magique qui pose qu'il suffit de penser quelque chose, de prier pour que cela arrive. Mais pour franchir cette étape décisive, il doit passer par ce moment affreux, angoissant au possible, de lâcher cette pensée magique qui l'assurait d'un bonheur total, absolu, pour faire l'apprentissage de la liberté réelle qui consiste à être responsable. Toute transition est difficile, car il s'agit de lâcher la certitude de ce que nous avons pour s'en remettre à l'espérance de ce qui est possible. Et ce passage si délicat nécessite de sérieux points d'appui, c'est le sens de la suite de ce passage. Dans ce texte biblique, c'est Moïse qui tient lieu de point d'appui. Et c'est la raison pour laquelle les Hébreux vont s'en prendre à lui. Ils s'en prennent à lui parce qu'ils savent qu'il est capable de tenir bon. S'ils s'en prennent à lui, c'est parce qu'ils savent qu'il y aura du répondant. Lorsque Moïse affirme qu'ils vont finir par le lapider, nous retrouvons la réalité vécue par ses parents qui disent, avec une autre image biblique, qu'ils se font littéralement crucifier par leurs enfants. Et voilà qui est heureux. C'est le processus de mort et de résurrection, qui bien sûr, dans ce cadre, est de l'ordre du symbolique, et donc qui est extrêmement structurant. Par attaques frontales successives, les adultes sont le vis-à-vis sur lequel on se construit de manière paradoxale. À la fois, les adolescents ont besoin des ressources des adultes. C'est le sens de ce texte de Pierre Fatt, notamment, et de tout ce que nous pouvons prodiguer à nos adolescents. Et dans le même temps, ils doivent se mettre à voler de leurs propres ailes, comme on dit. S'affranchir des parents, agir par eux-mêmes, se lancer dans l'aventure de la vie, et peut-être parfois, comme Lot, ne pas se retourner. Avant de quitter le nid familial, les adolescents ont besoin de leurs adultes, comme d'une base arrière, dans laquelle ils peuvent avoir confiance pour se réfugier en cas de problème. Et pour fonder cette confiance qui ne saurait être aveugle, sans quoi elle serait juste une sorte de fanatisme, ils ont besoin de tester les parents. Ils ont besoin de vérifier qu'ils sont fiables, qu'on peut compter sur eux en cas de coup dur. Alors, ce que nos traductions appellent « tentation » pourrait être tout aussi bien rendu par « test ». Mettre quelqu'un à l'épreuve. Mettre quelqu'un à l'épreuve, c'est vérifier qu'on peut compter sur lui. Et voilà ce que font les Hébreux. Ils contestent Moïse, et ce faisant, ils testent l'Éternel. Est-ce que c'est du roc sur lequel on peut bâtir sa vie ? Si Moïse semble craquer un peu, prêt qu'il est à envoyer tous ses adolescents aux prytanées militaires, l'Éternel tient bon et va conseiller Moïse avec sérénité. La réaction de l'Éternel consiste à affermir Moïse dans sa démarche pédagogique. La prière ne produit pas une résolution immédiate au problème, mais nous permet de mieux orienter notre réaction. La première consigne, c'est « traverse devant le peuple ». Ce verbe « traverser » est un verbe bien connu des hébraïsants, c'est le verbe « avar », qui signifie aussi bien « traverser » que ce mot qui donnera le mot « hébreu » tout simplement. Être hébreu, c'est traverser, c'est être un traversant. Cela signifie que la première invitation faite à Moïse est de réinvestir l'identité du peuple, de ne pas être dans une logique de face à face, mais de compagnonnage. Rejoins le peuple, rejoins-le dans ses préoccupations fondamentales. Revisite l'identité du peuple, retrouve ses racines, retrouve ce qu'il est, au lieu de t'opposer frontalement à lui. Et puis ce verbe signifie quand même traverser. Et pourquoi ne pas le traduire par « transcender » ? Transcender est un terme théorique qui ne peut pas exister dans la langue hébraïque, qui utilise les images de la vie quotidienne. Traverser, c'est aller au-delà, et c'est bien cela, transcender. Transcende les faces du peuple, pour être au plus proche du texte hébreu. Autrement dit, offre-leur une autre représentation d'eux-mêmes. L'Éternel demande à Moïse de transfigurer le peuple, de lui permettre de se penser autrement. Oh oui, c'est bien le temps de l'adolescence. C'est la fameuse métamorphose du vilain petit canard en sublime cygne blanc, majestueux. Aide le peuple à franchir cette nouvelle étape de son histoire. Aide-le à traverser les prémices du Jourdain à venir pour faire un pas de plus vers la terre promise. Celle de la vie en plénitude. Rejoindre et dépasser. Renouer le lien et donner plus à espérer. Vaste programme. À la fin de ce verset de consigne, nous avons ce verbe hébreu « alar ». Le verbe « alar » signifie « aller ». C'est traduit par « avance ». Et cela nous met aussi sur la piste de la loi. De la halakha, ce mot qui désigne cette partie du Talmud qui, avec la Gemara, donne l'interprétation de la loi, de la Torah. La halakha, c'est la loi qui est digérée, c'est la loi que nous nous approprions, c'est la loi que nous n'avons plus simplement sur les lèvres, capable de pouvoir jeter quelques versets bibliques sur toutes les bonnes ou mauvaises actions. C'est cette loi qui transpire à travers ce que nous sommes et qui n'a pas besoin de se dire pour être. Il s'agira d'éduquer au sens de faire cheminer le peuple de telle manière qu'il intègre la loi, ce qui est une condition sine qua non pour devenir adulte. Et entre les deux, conseil de famille ou conseil presbytéral et prise du bâton avec lequel Moïse avait frappé le Nil autrefois. Cela rappelle que la communauté éducative vaut mieux que le face-à-face stérile. Et c'est là aussi que parrains, marraines, et de façon générale, grands-parents, amis, ont leur place dans l'éducation de nos jeunes pousses. Quant au bâton, il fait référence à ce moment où Moïse devait convaincre le Pharaon du bien fondé de son projet de faire sortir le peuple hébreu d'Égypte. C'est au chapitre 7 du livre de l'Exode. Frapper le Nil pour en faire un fleuve invivable à ce moment-là de l'histoire. C'était une démonstration de force pour confirmer que l'avenir appartenait bien à Moïse et aux siens. Ici, face à l'angoisse de ce peuple d'adolescents, Moïse est invité à brandir une nouvelle fois ce bâton, en frapper un rocher sur lequel se tient l'Éternel, ce qui signifie un autel au sens religieux du terme, un autel où avaient lieu les sacrifices, c'est-à-dire où avait lieu la communion. Un autel, c'est ce qui assure la communion entre le divin et l'humain, entre l'Éternel et l'homme, entre nous et notre accomplissement. Cela signifie redire autrement l'horizon vers lequel notre vie peut nous conduire. Ce bâton est utilisé lorsqu'il s'agit de convaincre, de donner à penser ce vers quoi nous devons nous rendre. Et bien ici, Moïse se saisit de cet outil pédagogique et l'utilise autrement. Il ne se contente pas de répéter, il redit autrement, il réinterprète cet objectif pour le rendre compréhensible à celui auquel il s'adresse. Traduire à nouveau le sens que peut avoir la vie pour ce peuple d'adolescents apeurés par la vie, apeurés par son avenir. Ce peuple qui a l'impression de se faner, d'être incapable de la moindre floraison, incapable du moindre bon fruit. Et l'Éternel inspire Moïse dans son rôle éducatif pour reformer une communauté positive autour de ces jeunes Hébreux qui se dessèchent. Et l'eau jaillit. L'eau vive vient étancher la soif de ceux qui n'arrivent pas encore à s'abreuver à la source de la liberté et qui ont besoin d'être pris en charge, encore une fois, encore un peu, avant de pouvoir se prendre en main et de faire histoire, de faire leur propre histoire. Vous l'avez entendu, ce lieu a été nommé Massa et Meriba, ce qui signifie tentation et contestation. Ces noms ne sont pas péjoratifs. Ils ne sont pas le souvenir d'un moment funeste de l'histoire du peuple hébreu. De même que l'adolescence n'est pas un moment de notre vie qu'il faudrait oublier ou dont nous devrions avoir honte. Ces noms, Massa et Meriba, tentation et contestation, inscrivent dans notre mémoire l'impérieux besoin de tester nos points d'appui et d'entrer en débat avec ce qu'on nous propose comme des évidences qu'il faudrait accepter sans broncher. Bien sûr qu'aucune évidence n'est à accepter sans broncher. En ne s'en tenant pas à ses seuls instincts, en ne s'en tenant pas à ses réactions épidermiques, Moïse répond favorablement à ses sollicitations, en rejoignant les hommes et les femmes dans leurs préoccupations fondamentales, en les transfigurant de telle manière qu'elles se portent sur ce qui est à venir, au lieu de se concentrer simplement sur leur manque du moment. Elles se concentrent désormais sur toutes ces promesses que contient la vie, sur cette richesse en abondance que recèlent tous ces lieux de communion avec l'Éternel, figurés ici sous la forme d'un rocher qui rappelle le mont Horeb, le lieu du dialogue intime avec l'ultime, le lieu de la rencontre entre le fini et l'infini, le lieu où notre angoisse se métamorphose en confiance dans nos capacités à nous tenir sur la terre des hommes libres. Quelle belle période que celle de l'adolescence. Dans une certaine mesure, je vous envie un peu encore, car c'est l'âge de tous les possibles. Quelle belle période que celle de l'adolescence, qui laisse entrevoir les charmes incommensurables d'une vie vraiment débridée. Amen. Cette eau en abondance fait refleurir les déserts et pousser toutes les petites fleurs sur les parvis de l'Éternel. Et nous allons pouvoir chanter cela au cantique 415, les strophes 1, 2 et 3. Je vais demander à notre sacristain de bien vouloir allumer le micro pour l'un des éclaireurs qui va venir faire une annonce. À l'issue de ce culte, un verre fraternel vous est proposé dans la grande sacristie, derrière ses portes. Cela signifie que je vous propose de laisser vos recueils de chants au bout des rangées, de façon à pouvoir vous y rendre plus facilement. L'essentiel des diacres sont actuellement en face, à la cuisine Salmono, pour préparer un repas, le repas du Centre d'Action Sociale Protestant, pour des personnes qui en ont besoin. Dans notre agenda cette semaine, le chœur d'enfants se réunira pour la dernière répétition de l'année, donc mardi à 18h, Salmono. À partir de mercredi, nous entamons notre cycle de lecture biblique de l'été. Le thème pour juillet et août sera la prière. Et donc mercredi, de 12h30 à 13h30, aux 4 rues de l'Oratoire, salle Roberti. Ce sera l'occasion de parcourir un texte de Jérémie au chapitre 20 qui dit ce que signifie se tenir face à Dieu. Je vous laisse tout de suite la parole. Oui, je veux bien vous donner la parole.
Alors bonjour, je suis Théo, le CP de la patrouille des chamois. Donc avec la patrouille des lynx, donc Sacha, on organise une sortie gâteau pour récolter des fonds pour le matériel pour le camp. Donc voilà, donc merci. La sortie se fera à la sortie de l'église. Merci. Bravo. Ok.
Alors, achetez bien, parce que je serais un peu malheureux que les lynx soient sans un équipement bien adapté. Hein. Très bien. Et donc, dimanche prochain, notre culte, comme d'habitude, à 10h30. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au baptême de la Charlotte royale en Angleterre, il y aura ici le baptême de l'autre Charlotte, ce qui, après tout, se fait aussi dans une chapelle royale. On a les lieux de culte qu'on peut. C'est maintenant le moment de l'offrande, que ce soit l'occasion pour chacun d'exprimer sa reconnaissance et sa joie. Nous louons Dieu. Dieu, plus grand que notre cœur, Dieu au-dessus de nos pensées, il est juste et bon de te remercier en tout temps et en tout lieu, là où se lèvent des hommes et des femmes pour marcher dans le droit, la justice et l'amour, pour tendre à autrui une main fraternelle, pour briser les barrières des haines et des méfiances séculaires. Père de toute l'humanité, rassemble nos vies et rassemble ton peuple à l'heure où nos voix s'unissent pour proclamer ta gloire. Amen.
Et voici comment l'Évangile raconte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant ensuite pris une coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang ». Le sang de l'Alliance qui est répandu pour une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et comme les épis, jadis, épars dans les campagnes et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines, sont maintenant réunis sur cette table, dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton humanité soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Et ensemble, nous pouvons t'adresser vers à toi, Père, avec cette prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Que celui qui a faim s'approche de cette table, que celui qui a soif viennent au repas que le Seigneur lui-même va présider. Nous sommes toutes et tous invités, petits ou grands. Nul ne peut être exclu de cette table de l'amour. Nous arriverons par l'allée centrale et repartirons par les allées latérales de façon à former des tables à visage humain. Et maintenant, frères et sœurs, venez, car tout est prêt. Frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous.
Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandue pour chacune et chacun d'entre nous.
Frères et sœurs, gagnons nos places dans la joie suscitée par l'Évangile. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ, béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous préparer ta venue. Amen. Comme chaque dimanche, un conseiller presbytéral se tiendra à votre disposition. Ici même, ce sera Marc Verstraat pour toute question que vous vous poseriez sur la communauté ou toute récrimination à faire ou tout encouragement à formuler. N'oubliez pas donc ce verre fraternel qui va être servi aussitôt après que vous aurez reçu la bénédiction et je vous invite à vous lever pour recevoir Icel. Frères et sœurs, Dieu nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Il nous bénit et avec nous tous ceux qui le cherchent, ou qui l'espèrent, ou qui l'ignorent. Amen.